Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Binge.
Je peux toujours pas prendre de pizza, il y en a plus de toute façon.
Si, il y en a.
Je crois qu'il en reste.
Je vais la bouffer à l'antenne, hein. Je vais faire
bah ouais, tu vas faire.
C'est comme ça, quoi.
Faire des bruits de bouche.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui souvent vous a entretenu de son goût prononcé pour le cinoche qu'on fabrique tout à l'est de notre belle planète, celui que régulièrement les pays asiatiques nous donnent à voir avec une vigueur sans cesse renouvelée. C'est notamment vrai pour tout ce qui concerne la Corée du Sud, l'un des plus passionnants viviers en la matière. On a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois et on va sans tarder s'y remettre puisque nous allons évoquer au cours de la demi-heure qui vient The Battleship Island de Ryu Seung-wan. On va le faire en compagnie d'un duo de fiers combattants de la liberté de filmer réunis ici à l'antenne Paris, Julien Dupuis. Salut Julien.
Bonjour Thomas.
Et Stéphane. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez, c'est Nos Ciné épisode 126 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
The Battleship Island, qui a perdu son 2 dans la version française pour s'appeler simplement Battleship Island. Je ne sais pas pourquoi. Ça change pas grand chose à l'histoire qu'il nous raconte, qui est inspiré de faits réels, comme on dit, celle des prisonniers de guerre coréens durant l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, rassemblés sur l'île d'Ashima, transformés en camp de travail géant. Un camp dont plusieurs centaines de prisonniers vont tenter de s'échapper. Évidemment, ça ne sera pas d'une simplicité totale. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Ryu Seung-wan qui, malgré ses 44 ans, a déjà son 10e long métrage. Au casting, on retrouve notamment la star sud-coréenne Wang Jong-min, la pop star Lee Jong-yong ou la star de la télé Song Joong-ki. Le film a été un carton monumental en Corée du Sud. Il a fait plus de 6 millions d'entrées. Votre verdict sur ce Battleship Island, chers amis? Julien.
Bah, moi j'ai adoré, je trouve que c'est un film incroyable. C'est compliqué parce qu'il y a tellement, c'est un film qui est plein en fait, qui est ultra dense, qui tente des tonnes et des tonnes de choses au cours de son métrage. Je crois que c'est assez long, hein, c'est un peu plus de 2 heures.
Il me semble que c'est ça.
2h20,
2h15.
Ouais, 2h15. Du coup, c'est un peu difficile de savoir par où commencer en fait, par où prendre en fait le film. Peut-être que l'angle le plus
2h12.
Éloquent, voilà. Ouais, merci Thomas.
De rien.
Quelle précision.
132 minutes.
Aussi. Ouais. Peut-être que l'angle le plus étonnant, c'est que c'est un épisode. Que j'imagine, alors moi je suis pas un spécialiste, hein, de l'histoire coréenne pendant la Seconde Guerre mondiale, mais enfin, j'imagine que c'est quand même un épisode qui a un trauma. En plus,
ça a été un peu caché. Alors voilà, le gouvernement japonais
qui à ma connaissance n'a toujours pas vraiment reconnu en fait les faits.
Non, même s'il y a eu du coup des projections d'organiser du film
là-bas
au Japon,
ouais,
ce qui était un petit peu événement au Japon, parce que beaucoup de gens ont découvert l'histoire de ces camps à cette occasion.
Mais ce que j'aime énormément en fait, c'est que c'est compliqué en fait d'aborder un truc pareil. C'est surtout c'est tellement lourd, c'est tellement noir, c'est tellement désespéré. Et peut-être la première chose qui me frappe moi et qui m'enthousiasme, c'est que malgré ça, le film ne s'excuse jamais de faire du cinéma. Ne s'excuse jamais d'être un vrai grand spectacle, ne s'excuse jamais d'être super drôle par moment, de parfois aller dans la caricature. Alors moi, pour moi, ça a du sens d'ailleurs, hein, quand il va dans la caricature, mais je m'en expliquerai plus tard. Et du coup, il y a quelque chose de vivifiant, c'est-à-dire que on voit à longueur de journée en tant que journaliste, surtout beaucoup de productions occidentales, hein, puisque c'est quand même la très très large majorité de ce qui sort en salle ou en Blu-ray ou en e-cinéma. Et voir ça, en fait, c'est un vent de fraîcheur, en fait, alors que parallèlement, Hollywood est pétri de peur et n'ose rien, en fait, n'ose plus rien faire, quoi. Donc ça, déjà, pour moi, c'est la première chose. L'autre chose qui me frappe énormément dans le film, c'est et qui est lié donc à cette audace, c'est que c'est un film qui te force tout le temps à être sur le qui-vive. C'est-à-dire que dès que tu es dans une zone de confort où tu te dis ah oui alors là je suis plus dans le mélo très lourd et moi je trouve d'ailleurs très efficace, ben paf il va te désamorcer ça et puis tu vas aller plus vers une espèce de film de guerre, on va dire à tendance blockbuster, enfin avec beaucoup de choses qui explosent. Quelque chose de très satisfaisant au niveau du spectacle. Et puis, paf, il va te casser ça et puis il va te faire un discours un peu plus, disons, politisé sur les différentes forces en présence et qui sont en train de lutter, en fait, à l'intérieur de cette île. Et je trouve ça super intéressant, en fait, de te contraindre comme ça, à te remettre en question, à te reposer des questions aussi sur ton attitude vis-à-vis des personnages. Ce qui me conduit enfin à la dernière partie en fait de ma défense en fait sur le film, qui est que la dernière chose moi qui me touche beaucoup dans un film comme Battleship Island et qui et j'ai l'impression est quand même quelque chose qui est pas forcément neuf mais en tout cas qui s'est accentué ces dernières années, c'est que c'est un film aussi sur la chute des idéologies. Moi je suis toujours très touché, je me rappelle c'était dans Les Fils de l'Homme que ça m'avait frappé la première fois. J'aime beaucoup en fait ces films où on te remet dos à dos tout ce qui est idéologue, c'est-à-dire que on te met en place des personnages où ils vont devoir un moment choisir entre basiquement leur idéologie et leur humanité. Et ce que j'aime beaucoup moi dans Battleship Island, c'est que finalement le film, alors je vais pas spoiler ou quoi que ce soit, mais enfin j'espère que je le fais pas, mais finalement le film va rejeter en fait tout ça et te montrer que ce qui compte en fait, c'est l'humanité intime quelque part. Et en l'occurrence, un personnage central, parce que ça reste quand même un film assez choral hein, dans sa structure. C'est pas vraiment un film choral, mais c'est quand même relativement difficile de sortir un seul personnage, par exemple, hein, dans Battleship Island. Mais donc, il y a un personnage de père, qui est un musicien, donc un artiste avec sa petite fille, et qui, au final, qui vient juste, qui est mu par un pur instinct de survie, en fait, pour lui et pour sa fille. Et finalement, tu te ranges, en fait, à ses côtés. Parce que finalement, le cœur même de l'humanité et de la valeur, en fait, de l'être humain réside, en fait, ici. Moi, dans ce mouvement-là, je vois en fait dans Battleship Island une très belle fable anarchiste en fait, dans tout ce que l'anarchie peut avoir de beau et d'exaltant en fait. Et ça fait partie du côté vivifiant, c'est-à-dire que je ne vois pas un seul film américain capable aujourd'hui de faire comme ça. Enfin, en tout cas, bon, sinon ça reste des exceptions et des chefs-d'œuvre, ça peut arriver évidemment quoi. Mais c'est étonnant parce que ça reste quand même une super production coréenne, interprétée par des gens extrêmement connus, ça a coûté une fortune. Je crois que c'est peut-être le plus gros décor construit en Corée du Sud pour un film.
Enfin, je sais que le film a battu tous les records.
Donc oui, donc c'est un truc monumental quoi. Et c'est formidable quand même de pouvoir voir ça. Voilà.
Stéphane, toi tu es moins enthousiaste.
Ah, mais carrément moins. Et c'est même étonnant parce que j'écoute Julien parler et je pense qu'il a raison. Tout ça c'est dans le film aussi. Et c'est vrai que c'est un film assez spectaculaire, pas seulement en fait dans effectivement une bataille finale assez énorme, mais aussi dans la reconstitution en fait, dans le sens du détail, ce genre de choses quoi. Après moi le problème que j'ai c'est que justement je trouve pas que ce soit un film qui me, en fait c'est un film où je me demandais vraiment où le film voulait en venir en dehors de sa, comment dire, de l'aspect historique on va dire entre guillemets du film quoi. Et notamment enfin un des trucs que je dirais qui, je sais pas si je vais me faire comprendre. C'est un des films violents, parce que c'est violent, vraiment. C'est les moins violents que j'ai pu voir ces dernières années. C'est-à-dire, je suis resté littéralement extérieur à la violence du film. Et j'ai l'impression que c'est parce que, en fait, justement, la façon dont le film est mis en scène, à proprement parler, là, je parle vraiment des mouvements de caméra, ce genre de choses, etc., etc. L'opulence, en fait, du film dessert ces moments, en fait, de violence, intimité, je trouve. Et il y a pareil, enfin, je vais te donner un exemple précis, peut-être. Il y a un personnage qui se fait torturer à la Gégène. Et là, d'un seul coup, t'as trois mouvements de caméra sur le truc, et tu vois, tu t'attardes jamais sur le moment de la souffrance du mec. La scène est extrêmement courte en soi, hein, dans l'absolu, mais elle est symptomatique en fait de cette façon d'aborder le film. Est symptomatique pour moi de cette scène est symptomatique de la façon dont la violence est abordée dans le film, je trouve. C'est-à-dire vraiment de façon presque extérieure, parce qu'il y a beaucoup. Si tu fais vraiment le décompte de toutes les atrocités que les personnages comment dire, subissent. Si c'était vraiment, si ça t'attrapait vraiment par le callback pour te montrer ça, ça serait un film horrible à regarder, quoi. Ouais. Et voilà. Donc après, moi, je peux pas, enfin, encore une fois, je peux pas enlever, le sens du spectacle que le film propose, ce genre de choses. J'ai presque envie de dire que là où moi, j'ai l'impression d'avoir vu ces films-là, en fait, alors pas exactement de cette manière-là, et en fait je vais pas lui enlever non plus son identité de film coréen, hein, ça, ce que c'en est clairement un, mais j'ai vu ces films-là à Hollywood justement dans les années 60, quoi. C'est-à-dire cette façon d'aborder des sujets graves ou des choses comme ça, mais par exemple avec un brin de comédie, un brin de légèreté ici ou là pour faire passer le truc. T'as ça dans La Grande Évasion, t'as ça dans plein de films. Mais
pas avec cette radicalité-là. Si on parle de violence, il y a aussi, par exemple, les morts d'enfants qui sont envoyés dans la mine. Personnellement, moi, ça m'a ultra bouleversé.
Mais c'est tout le problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve qu'il n'est pas radical du tout, justement. C'est-à-dire qu'il est radical sur le papier, pas à l'écran. C'est-à-dire que le film commence littéralement par une scène d'évasion. Hein. Donc, c'est pas un énorme spoil. Hein. L'idée, c'est de te présenter l'île sur laquelle ça se passe. Et en fait, de te montrer que les gosses à la mine, tout ça, etc., veulent essayer, enfin, ils essayent de se sortir de là, ils essayent d'envoyer un SOS, et ils sortent, ils se jettent à la mer, ils espèrent se faire attraper, en fait, ils se font rattraper, voilà. Et littéralement, en fait, tu regardes cette scène, ça dure 5 minutes, et à la fin, j'ai littéralement zéro empathie à aucun moment donné pour les personnages qui se sont.
Voilà. Mais tu es un monstre.
C'est assez terrible de sortir. Mais c'est terrible en fait de sortir. Je comprends par exemple quand tu parles de parce que c'est ce qui a le plus réussi finalement je trouve dans le film la relation entre le père et sa fille dans plein de petites scénettes comme ça. Mais c'est pareil, c'est épars en fait dans le film. C'est il y a une scène là puis 20 minutes après il y en a une autre, tu vois. Et enfin, entre temps t'as suivi 15 autres personnages, etc., etc. Et là où je trouve le film extrêmement emprunté, c'est que, alors effectivement, comme dit Julien, c'est un film qui n'excuse pas de faire du cinéma, jamais, jusqu'à un point de rupture, quoi. C'est-à-dire, à la fin, quand il se remet du Morricone sur une scène de bataille, ça me sort littéralement de la scène, quoi. C'est-à-dire, je me dis, ok, j'avais pas besoin j'étais déjà bien dehors du film, quoi. Mais là, j'étais en train de me dire, d'accord, ok, c'est Ecstasy of Gold.
Yeah. Du bois à la brute, le truc.
Voilà, et puis d'autres ont récupéré, comme
Tarantino. Metallica, par exemple.
Oui, mais j'allais dire au cinéma, comme Tarantino, etc., etc. Et je trouve que c'est dans une logique un peu fourre-tout pour moi du film. C'est-à-dire, le problème que j'ai, ce que je trouve terrible, en fait, c'est un problème que j'ai de manière assez globale avec le cinéma coréen, même si je peux pas faire une généralité, vraiment. Hein. Mais
c'est varié,
mais en même temps, en fait, c'est une question d'approche. C'est-à-dire qu'à part 3-4 grands cinéastes, grands noms qui sortent vraiment du lot et qui l'ont démontré avec film après film, la plupart des films coréens que je vois, en fait, mais j'en vois pas tant que ça non plus, hein, donc voilà, c'est des films que j'ai tendance à oublier très très vite en fait. Et même des films, par exemple, les premiers films de Park Chan-wook comme JSA, je serais incapable de te dire, à part que je sais que ça se passe sur la frontière, etc., je serais incapable de te dire de raconter une seule scène du film parce que c'est des films qui me sortent littéralement de la tête. Et je trouve qu'il y a une espèce de distance et que j'ai retrouvé ici, là, en l'occurrence, avec ce film-là. Où effectivement, encore une fois, dans tout ce qu'a dit Julien, c'est vrai, c'est ça. Il te décrit pas un film qui n'est pas que tu vois pas à l'écran, mais pour moi, il m'a décrit un film que je ne ressens pas du tout de cette manière-là, quoi. J'aurais aimé le ressentir pour le coup de la façon dont il le ressent, quoi.
T'es jaloux un peu de ce qu'a vécu Julien.
Juste pour rebondir, moi, sur l'horreur et puis le côté oppressant aussi, il y a un autre truc dont j'ai pas parlé, moi, qui me semble super intéressant et qui renvoie justement à cette espèce de questionnement, en fait, des idéologues, on va dire ça comme ça, des gens qui luttent pour une nation, pour une idée qui, bref, des guerriers, quoi, voilà. Je vous renvoie à Mourir pour des idées de Brassens, ça aurait presque pu être Marocco. Mais il y a un truc qui est super intéressant, qui fait vraiment partie, et qui est pour le coup, je trouve, traité peut-être pas avec beaucoup de finesse, pas un film forcément très fin d'ailleurs, mais qui en tout cas dans son approche et dans ses enjeux, je trouve que c'est assez fin, qui est en fait le mode de fonctionnement des Japonais, qui est extrêmement pernicieux, puisque les prisonniers ne sont pas considérés comme étant des prisonniers. ils sont considérés comme étant des travailleurs qui œuvrent pour un patron qui se trouve être des prisonniers, mais ils ont un salaire et ils ont des droits. Il y a du coup tout un parallèle en plus avec les syndicalistes, avec cette espèce de il y a un personnage qui est censé représenter ce que le peuple veut, par exemple. Et je trouve que c'est excellent, en fait, dans le film, ça. On en a tous vu pas mal, hein, des films de POW, là, les films de prisonniers de guerre, les stalactites et tout. Et je crois pas avoir vu ça, en fait. Ce mode de fonctionnement très malin, qui vient peut-être hein, des faits réels, hein, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, je trouve que c'était une autre qualité, enfin, en tout cas, un autre mécanisme que je trouve extrêmement intéressant dans le film. Voilà.
Ça n'aura pas convaincu Stéphane.
Non, je sens.
Moi j'ai vu le film.
C'est pour alors, ça. Je précise un truc et je ne fais absolument pas référence d'ailleurs à Steph en disant ça, mais malheureusement, je devrais peut-être pas le dire, mais il existe une copie pirate du film sur le net. Et c'est triste, en fait, parce que déjà, c'est compliqué, en fait, je pense, pour un distributeur comme Metropolitan, en fait, de sortir ça sur grand écran aujourd'hui.
Écran en France,
ouais. C'est malheureusement, aujourd'hui, le lot de ce genre de film, c'est de sortir directement au cinéma ou en Blu-ray. Et c'est vraiment un film à voir au cinéma, quoi. Oui. Mais vraiment, quoi, c'est...
Enfin, on va préciser un truc, il existe un Blu-ray, hein. C'est un Blu-ray, c'est pas une copie pirate. Le film est sorti il y a 8 mois.
Oui, enfin bon, il n'empêche quoi. C'est pas la même chose que de voir un film chez soi et de voir un film en salle. Enfin, ça, c'est de la palissade, mais
tout à fait.
Voilà, je précise ça pour les auditeurs. Je vous invite vraiment à soutenir le film en salle si vous avez envie de lui donner sa chance.
En tout cas, vous jugerez sur pièce. Avant de se quitter, messieurs, on va pas perdre nos bonnes habitudes. On va faire notre habituel tournée de recommandations pour nos auditeurs. On peut rester dans l'univers du film de prisonnier, le POW, comme tu disais, Julien, mais c'est pas obligé. Stéphane, tiens, tu vas commencer.
Il y a quelques semaines de ça, on a fait une émission sur le 15-17 à Paris, pour Paris, c'est ça ?
Ouais,
De Clint Eastwood, et on a dit du mal de Clint Eastwood, et ça va pas, en fait. Il faut que je rétablisse la balance,
parce que je
ne dors plus la nuit. donc il faut que je vais faire une reco sur Clint Eastwood à chaque
émission jusqu'à l'année prochaine.
Voilà, exactement.
Jusqu'au prochain film de Clint Eastwood.
Bon, là, il y a un minimum de rapport. Je dis bien un minimum, hein, parce que c'est, comment dire, un film aussi d'évasion, même si l'évasion arrive très tardivement dans Battleship Island, sur une île. Donc évidemment, et puis Clint Eastwood, Ecstasy of Gold, La Brute et le Truand, tout ça, etc. Voilà, je me comprends.
Ouais. Il n'y a pas de Coréen dans le film que dans ta reco, Stéphane.
Écoute, je suis sûr qu'il y a un prisonnier coréen au fond, tu vois, dans une des cellules, et t'es pas au courant. Et c'est L'évadé d'Alcatraz de Don Siegel, hein, qui fait partie des films de Don Siegel qui sont pas forcément les plus appréciés à leur juste valeur,
reconnu,
évidemment c'est pas Bonnie Snatchers, bon, c'est l'un des classiques, c'est pas Inspector Harry non plus aux yeux des gens, mais ça reste quand même un film moi je trouve extrêmement bien documenté sur le sujet, extrêmement, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, hein, d'un type qui s'est évadé, Frank Morris, qui s'est évadé d'Alcatraz, qui est interprété par Clint Eastwood là, et qui est tourné en conditions à Alcatraz après que la prison était fermée,
qu'elle a été vidée,
et qui moi je trouve est d'une efficacité
assez redoutable,
des choix en plus dramaturgiques super culottés, notamment sur la fin qu'on ne révélera pas et sur la caractérisation de personnages d'Eastwood.
T'as vu, tu valides
comment il est super,
c'est un bien meilleur film que Battleship.
Non, pas du tout. Moi je vais faire une reco qui est très éloignée, pas trop, mais en fait moi, quand on parle de cinéma sud-coréen, je pense à Memories of Murder. Et, alors donc là, moi, je pense que je suis pas le seul. On attend beaucoup l'édition spéciale que prépare la Rabia de Memories of Murder. On sait qu'ils ont fait un gros doc. Il y a des gens qui sont allés en Corée du Sud pour interviewer toute l'équipe du film. Donc j'attends ça très fortement. Et pour patienter, la Rabia vient de sortir un film tout à fait étonnant que je vous conseille très chaudement. Alors c'est pas du tout un film de guerre. C'est un peu un film de guerre, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la prison, tout ça. C'est un film qui s'appelle Hutu de Geoff Murphy. Geoff Murphy, ce fut un temps, alors ça n'a pas duré très longtemps, mais ce fut l'espoir du cinéma néo-zélandais bien avant Peter Jackson. C'était dans les années 80, où tout, c'est l'histoire d'une rébellion maori contre les colons anglais. C'est un film tout à fait étonnant, tout à fait particulier. C'est à la fois une espèce de western, c'est en même temps un film de guerre, mais s'il y a un côté extrêmement trivial et bourrin aussi dans le film, parce que d'ailleurs, comme leurs voisins les Australiens, il y a un type de filmage, en fait, je trouve, dans ces pays des antipodes, avec des focales toujours très courtes, beaucoup de mouvements de steadicam, une mise en scène extrêmement frontale. Et moi, je vous le conseille très très chaudement. C'est quelque chose. C'est étonnant. En plus, l'édition est super belle. Il y a un très beau livret avec. Et alors là, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est une grosse cerise. Il y a un documentaire d'époque de 40 minutes sur le tournage du film où on voit Geoff Murphy au travail et on voit que c'était un mec complètement fou, quoi, déjà. Et on voit aussi à quel point le film a été tourné, mine de rien, avec des bouts de ficelle, alors que je crois qu'à l'époque, bon, c'était pas très difficile, hein, ceci dit, mais c'était, je crois, le plus gros budget du cinéma néo-zélandais quand c'est sorti. Et là où il y a un petit rapport, en fait, avec Battleship Island, c'est que de la même façon, il aborde, en fait, un truc très lourd pour les Néo-Zélandais, un fait historique pesant, et il arrive à s'en affranchir parfois totalement pour livrer un film bizarre où t'as un moment, t'as un fermier qui se construit un super flingue qui explose des maisons ou des choses comme ça. Voilà, donc je vous recommande ça très chaudement, et on oubliera du coup que Geoff Murphy a réalisé plus tard Fortress 2 avec Christophe Lambert.
Oui, c'est vrai. Ouais, t'as un grand film aussi.
Free Jack.
Et
Piège à haute vitesse,
Piège à haute vitesse, c'est vrai, Piège à grande vitesse, qui est un grand film.
Un grand film, qui est un classique, on peut le dire, un classique. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Quentin à la Technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit ?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, que les acheter et pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.